Vous êtes sur RTL.
On refait le sport sur RTL.
Avec Le Parisien, aujourd'hui en France.
Isabelle Langer.
Bonsoir, ravi de vous retrouver pour une émission spéciale ce soir. Une émission consacrée à un homme, monsieur Julian Alaphilippe, champion du monde de cyclisme sur route pour la deuxième année consécutive. C'est la première fois qu'un Français réussit pareil exploit, conserver son maillot arc-en-ciel. Dans un instant, nous retrouverons Laurent Jalabert, notre consultant, et Nicolas Georgerot, l'envoyé spécial de RTL en Belgique. Nous serons également en ligne avec le sélectionneur des Bleus, Thomas Vauclair et Bernard Hinault. En fin d'émission, nous n'oublierons pas la 100e victoire de Lewis Hamilton. Hamilton, vainqueur du Grand Prix de Formule 1 en Russie. Et puis comme chaque dimanche, je suis en bonne compagnie, celle de notre partenaire du Parisien aujourd'hui en France. Bonsoir Maya Cazenave.
Bonsoir.
Chef adjointe du service des sports, il vous a bluffé, Julian Alaphilippe.
Ah, j'ai vibré devant ma télé, c'était magnifique le voir grimaçant, là, vraiment aller chercher au bout de l'effort et puis à la fin ce sourire et ce bonheur, enfin, c'était extraordinaire.
Avant d'aller en Belgique, les résultats de football de l'après-midi. Bonsoir Quentin Vasselin.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous.
Monaco réussit à s'imposer sur la pelouse de Clermont.
Victoire 3-1 des joueurs de la Principauté en Auvergne, menés d'entrée après le but de Bayo. Les Monégasques ont renversé la rencontre grâce à Ben Yedder, Voland et Sofiane Diop dans les arrêts de jeu. Dans les autres affiches de l'après-midi, Bordeaux est revenu en fin de match face à Rennes. Match nul un partout entre les deux formations. Auxerre a répondu à Gaëtan Laborde. Metz remporte sa première victoire de la saison. 2-1 à Brest. Nicolas Depréville et Fabien Santon se permettent aux Lorrains de remonter à la 18e place. 3 et Angers se séparent sur un nul un partout. Baldé ouvre le score avant que Thomas Mangaline égalise à la 65e sur un pénalty. Enfin, Nantes est stoppé par Reims après 2 victoires consécutives. Et bien les Rémois s'imposent 3-1 face aux Canaries. Un but de Fouquet, c'est un doublé d'Ekitike, la révélation champenoise de ce début d'année.
À 20h45, Marseille reçoit Lens. C'est bien évidemment à suivre à partir de 20h dans RTL Foot avec Eric Silvestro et Giovanni Castaldi.
Julian Alaphilippe vient d'être sacré champion du monde, Nicolas Georgerot.
Oui, énorme exploit de Julian Alaphilippe, sacré pour la deuxième fois champion du monde. Le doublé pour le Français de 29 ans.
J'ai pas de mots là en fait, faut que je récupère. Je me suis vraiment fait violence et voilà, je pensais à mon petit dans le final. À la rage que j'ai, je voulais tout lâcher. Et, très difficile mais à la fin une grande émotion.
Julian Alaphilippe au micro de nos confrères de France Télévisions n'a effectivement pu retenir ses larmes sur le podium. Monumental, phénoménal, héroïque. J'ai cherché, il n'y a pas assez de superlatifs pour décrire son exploit, sa performance et surtout son panache. Bonsoir Nicolas Georgerot.
Bonsoir.
Bonsoir Laurent Jalabert.
Bonsoir.
Vous êtes à Louvain en Belgique et il vous a épaté et régalé, Julian Alaphilippe, Laurent Jalabert.
Ah oui, c'était un moment extraordinaire, une telle performance pour la deuxième année de suite. Sur un parcours qui à la base n'était quand même pas idéal pour lui, hein, mais dans le final, c'était dû à Alaphilippe, hein, il a mis de l'engagement, il a couru avec son cœur, il était très costaud et l'exploit est au bout, donc on a vibré et c'est vraiment exceptionnel pour lui, pour le cyclisme français aussi. Donc voilà, un grand moment de cyclisme cet après-midi, encore une fois, grâce à lui.
Nicolas Georgerot, on va revenir sur cette course, vous pouvez nous refaire un petit peu le déroulé. Les Français étaient assez costauds quand même. Hein.
Oui, en fait, les Français ont été acteurs tout au long de la journée, avec cette capacité à pouvoir suivre les uns les autres, à être acteurs au bout de 80 km après le départ, et puis ensuite d'attaquer sans cesse les rivaux, les Belges, les Néerlandais, et donc on a vu Julian Alaphilippe entrer en action à 58 km de l'arrivée, et ensuite une dizaine de kilomètres plus tard, et puis ensuite à 17 km de l'arrivée, là il était seul et ensuite ça a été 17 km d'un numéro en solo pour aller s'imposer dans le centre-ville de Louvain.
Laurent Jalabert, à 17 km de l'arrivée, mon oreille a bien entendu, vous étiez un petit peu quand même douteux sur cette attaque de Julian Alaphilippe.
Oh, 17, ça allait à peu près, parce que là, j'ai bien vu qu'il faisait la différence.
On mettra la
costaud.
Pige.
Hein. Non, là où j'étais inquiet, c'est quand je l'ai vu sortir de sa réserve à une soixantaine de kilomètres de l'arrivée. Je pensais que c'était beaucoup trop tôt. 17, ça peut faire long, mais ce qui m'a surpris surtout, c'est de voir que derrière, personne n'était capable de réagir. Moi, j'ai pas le souvenir d'avoir vécu une telle domination dans un championnat du monde de la part d'un coureur. C'est exceptionnel ce qu'on a vécu cet après-midi, être capable, alors qu'il c'est pas le premier venu, c'est un coureur qui est quand même très attendu, il faisait partie des favoris. Et c'est exceptionnel de voir un favori attaquer comme ça et que personne ne soit capable ni même d'essayer de l'emboîter le pas. Il a essayé une fois, deux fois, trois fois, et finalement on s'est rendu à l'évidence, c'est qu'il y avait Alaphilippe, et puis derrière le reste de la troupe, mais beaucoup plus loin.
Amaya Cazenave,
cette anégation, elle est quand même dingue parce qu'on sait que c'est aussi des fois ce qui peut lui jouer des tours, le cramer. Et puis là, malgré tout, il y est encore allé et a insisté jusqu'au bout. Laurent ?
Oui, c'est vrai. C'est pour ça qu'en le voyant sortir à 60 km de l'arrivée sur un championnat du monde, bon, je me suis dit, alors qu'il y avait quand même encore beaucoup de monde, c'est pas le moment, c'est trop tôt. C'est dommage, on a déjà vu des coureurs, et Julien, on l'a déjà vu aussi, faire preuve de tellement d'engagement, de bravoure, qu'il s'est parfois brûlé les ailes. Donc je craignais ça, mais... Lui devait sentir qu'il était vraiment au-dessus du lot, hein, pour agir de la sorte.
Alors sans plus attendre, messieurs, dames, je vous propose d'écouter le héros du jour, Julien Alaphilippe. Il est au micro de nos confrères de France Télévisions.
Pour l'année dernière, c'était déjà vraiment un rêve qui se réalisait pour moi. Ça a été très difficile, mais à la fin, une grande émotion. Et voilà, je sais ce que c'est de faire un an avec le maillot arc-en-ciel. Et je suis arrivé ici vraiment détendu, vraiment relax, avec forcément beaucoup de motivation, mais certaines formes de... Ouais, de relâchement, je sais pas, juste envie de bien faire, juste envie de travailler pour l'équipe et oui, aller chercher le meilleur résultat possible. Je savais que les jambes étaient bonnes, j'ai bien travaillé les dernières semaines. Je n'ai pas imaginé faire un tour et demi tout seul. C'était pas prévu et je pensais pas que j'étais capable de tenir jusqu'au bout. Je n'ai pas de mots, je sais ce qui m'attend là l'année prochaine et je suis content. Pas de mots là, en fait, faut que je récupère. Je me suis vraiment fait violence et voilà. Je pensais à mon petit dans le final, à la rage que j'ai. Je voulais tout lâcher. Et beaucoup de supporters qui étaient pour la Belgique et pour Wout Van Aert dans le dernier tour demandaient de ralentir. Ils n'avaient pas toujours des mots très sympas, donc je tiens à les remercier parce que ça m'a vraiment donné envie d'appuyer encore plus fort.
Nicolas Georgerot, ce public belge, il a effectivement chahuté Julien Alaphilippe, mais quelle ambiance sur le parcours!
Oui, il y avait plus de 400 000 personnes, ça a été incroyable d'un point de vue populaire. C'est vrai qu'il était, un petit peu conspué, un petit peu hué dans le dernier tour. On a même vu à 100 mètres de la ligne un supporter belge lui jeter sans doute de la bière ou quelque chose, enfin, en tout cas un liquide. Il s'est retourné, mais oui, il lui demandait de ralentir et évidemment parce que eh bien on a bien compris que l'enfant du pays, l'enfant du cru, Wout Van Aert était piégé, qu'il n'allait pas gagner et que ça allait être encore une terrible déception pour la Belgique et pour lui. Donc c'est vrai qu'il y a quand même une symbolique extrêmement forte de Julien Alaphilippe qui appartient à une équipe belge de Koninklijke Quick-Step, qui s'impose en Belgique, qui savoure...
Il connaissait bien le parcours aussi. Hein.
Oui. Et qui a permis de à savourer sur les 300 derniers mètres. On l'a vu lever les bras, savourer un petit peu la foule. Et c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort sur ce final et sur ces derniers kilomètres.
Amaya,
Nicolas, les Belges aujourd'hui, ils ont ils ont loupé leur course, ils ont loupé le podium aussi. C'est peut-être pour ça que les supporters se sont un peu agacés devant cette réussite aussi de Julien Alaphilippe qui a écrasé la concurrence dans les 15 derniers kilomètres.
Oui, c'est sûr, c'était évident, ça s'est pas passé comme il le souhaitait, parce que l'équipe de France notamment a su créer toutes ces cassures, a bousculé un petit peu le scénario de la course. Là, l'équipe de France, il y a un petit peu d'ambiance autour de nous, l'équipe de France est arrivée à l'hôtel, Thomas Voeckler est à côté de moi et il y a les coureurs de l'équipe de France aussi qui sont en train de profiter.
Alors justement, Thomas Voeckler est à côté de vous, bonsoir Thomas. Je voulais vous faire écouter deux petits échanges captés par nos amis de France Télévisions. Écoutez d'ailleurs ce premier extrait, Valentin Madouas arrive avec son casque encore sur la tête. Félicitez Julien Alaphilippe.
Bravo. Oh, t'es ouf. Bravo. Trop heureux pour toi.
Merci, Nilo. On a bien travaillé. Top.
T'es un ouf, je suis cramé, mais t'as bien travaillé. C'est effectivement aussi une victoire d'équipe, Thomas Voeckler. Les Français ont animé la course, on l'a vu. Et vous, vous avez retrouvé aussi Julien Alaphilippe. Allez, on écoute ce petit extrait qui nous a beaucoup plu.
Bon, on n'a pas trop respecté le plan, mais ça a marché quand même. L'instinct.
Il était beau cet extrait. L'instinct, il a couru à l'instinct, votre leader.
Bonsoir à toutes et à tous. Oui, à l'instinct, parce que c'est sa marque de fabrique. Après, faut pas faire n'importe quoi non plus. Mais il y a un moment où j'ai pas la prétention de prétendre d'apprendre à Julien Alaphilippe à courir. Je sais comment il fonctionne. Donc à un moment, il se pose des questions. Et après, j'essaie de lui apporter des réponses. Mais il faut laisser parler le naturel. Et ça fait des années qu'il nous fait plaisir. L'an dernier, cette année, il va encore le faire. Donc il faut... Il a besoin d'être des fois rassuré, à 17 km de l'arrivée, ça c'était pas prévu, je vous l'avoue.
Sincèrement, c'est ce que j'allais vous poser comme question, Thomas Beauclair. Il vous a fait peur à ce moment-là ?
Non, pas peur, pas peur. Il aurait été tout seul dans le groupe de 17, oui, il m'aurait fait peur, mais on avait encore Florian Sénéchal, Valentin Madois, à l'issue d'une course qu'on a pris en main très tôt. Peur, c'est pas le mot. Mais après, on aurait perdu. Du moment qu'on n'a pas de regrets, c'est pas grave. Mais il m'a pas fait peur, mais c'était un petit peu culotté quand même.
On le rappelle, il n'y a pas d'oreillette.
On le sait que Julien Alaphilippe, il a du culot.
Oui, c'est ça. On rappelle, il n'y a pas d'oreillette sur les championnats du monde. Il n'y a pas possibilité d'échanger avec les coureurs.
Ah, ça, c'est vous qui le dites.
Ah oui, parce que je me permets, on vous a vu, Thomas, au sommet de la Mosquestrade, sur le circuit flandrien. Il y a une image où vous êtes... à 5 mètres découvrir, à les encourager évidemment et à donner des consignes. C'est une image qui a été captée, mais vous êtes descendu. Et évidemment, un moment très fort aussi. Donc vous avez pu un peu communiquer, donner quelques consignes.
Il y a de l'ambiance derrière vous, hein. On a du mal à vous entendre, mais.
Il y a différentes techniques. Il y a les ardoises sur le bord de la route. Il y a les consignes. Il y a des consignes qu'on peut donner quand on a le loisir, la possibilité de monter près des coureurs à l'arrière du peloton. Et puis il y a des petites techniques d'anciens. C'est pas Laurent Jalabert qui me contredira. Il y a un moment, il y a un des coureurs, Clément Russo, qui demande c'est quoi la situation. Et ben, je lui ai donné un papier avec des fluos, avec les mecs qui étaient dedans. Et ça, dans les courses auxquelles on assiste toute l'année, c'est pas possible. Et moi, j'en sais que plus que j'ai.
Nicolas Georgeron, on va expliquer ce qui se passe derrière vous, parce qu'il y a beaucoup de bruit. On imagine que c'est l'arrivée d'un certain Julien Alaphilippe.
Oui, il est là. Il vient d'arriver. En fait, il en a terminé avec les obligations. On est à l'hôtel de l'équipe de France. Il vient de descendre de la voiture. Je sais pas s'il va d'ailleurs pouvoir venir peut-être nous faire un petit coucou. Ce serait sympa. Mais en tout cas, là, ça va être un petit peu compliqué. Il est aussi en train de savourer avec tous ses équipiers de l'équipe.
Bon, s'il vient pas, on lui pardonnera.
Oui, hein, oui, Thomas.
On pouvez attendre 24 heures.
Oui, on peut. On verra tout à l'heure.
Depuis qu'il est arrivé, il n'y a plus personne.
Il n'y avait que le Slovaque Peter Sagan qui était le seul à avoir réussi le triplé en 2015, 2016, 2017. Julien Alaphilippe le dit d'ailleurs à la fin d'une des interviews. Ça va être compliqué l'an prochain. Il se projette déjà.
Je ne sais pas, il faut lui poser la question. honnêtement, je vais être un peu vulgaire, mais je m'en fous complètement pour l'instant. On apprécie le moment. Déjà, qui aurait... puis penser qu'il conserve son titre, c'est juste énorme, donc chaque chose dans son temps, mais ce qui n'enlèvera rien à nos ambitions. Mais voilà, pour l'instant, je le vois là, il descend de la voiture, il y a beaucoup d'obligations pour le champion du monde en titre, et donc il a encore beaucoup de travail, et je vois ses coéquipiers qui le suivent pour le saluer, parce qu'ils l'ont presque, enfin ils l'ont pas vu depuis l'arrivée, il faut que les auditeurs se rendent compte, voilà, l'arrivée s'est faite il y a plusieurs heures, mais ses coéquipiers qui ont tout donné pour lui, ils n'ont pas encore eu l'occasion de le serrer dans les bras. Ou alors très rapidement, donc ils vont savourer un peu.
Amaya,
comment est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être cette relation entre Julien, vous, les autres coureurs? C'est un groupe aujourd'hui, il s'est quand même détaché. Et puis, on va laisser un petit peu le sportif de côté, mais personnellement, cette victoire, là, d'avoir réussi à conserver ce titre, on a vu cette photo aussi de vous. Je ne sais pas si vous avez gardé votre caleçon de bain, du coup, en porte-bonheur, mais est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, derrière la façade, si on gratte un peu le vernis?
Je tiens beaucoup. Je vais vous dire un truc, c'était du calculé. Je vous l'explique très rapidement. C'est-à-dire que je savais très bien que cette photo elle allait être prise quand Julien est arrivé. Et j'avais qu'une volonté, c'est que tout le monde pense que je suis un touriste et que tout soit calculé avant. Voilà, ça c'est mon petit côté.
Stratège.
prétentieux. Et non, pour le reste, franchement, c'est un travail d'équipe.
Et hormis le touriste, est-ce que vous pouvez nous dire, voilà, en tant que, quand on gratte un peu le vernis du sportif, humainement, qu'est-ce qu'elle représente, cette victoire?
Je pourrais vous répondre plus tard, mais là, c'est trop à chaud. Et je ne serai pas objectif. En tout cas, c'est différent de l'an dernier. Ça n'a pas plus, pas moins de valeur. C'est juste énorme. Il faut que je me pose aussi un petit peu. Je connais le monde des médias, vous n'êtes pas sans le savoir. Donc, il faut prendre un petit peu de recul. Mais la seule chose dont je suis fier, c'est l'état d'esprit qui anime l'équipe de France aujourd'hui, mais pas seulement, depuis quelques temps. Et voilà. Et moi, je le revendique, j'ai une part, mais très petite, dans les résultats qu'il y a eu, mais j'en tire aucune gloire. Et ma plus grande fierté, c'est le comportement et quand les mecs me disent que ça a été bien. Voilà.
Merci beaucoup Thomas Vauclair, je crois qu'il faut qu'on vous libère. Merci beaucoup d'être passé sur l'antenne de RTL.
Nicolas, il s'est échappé.
Il s'est échappé
pour aller rejoindre évidemment ses coureurs. En fait, je vous décris un petit peu la situation. Ils sont en train de monter dans l'un des bus qui ont été prêtés par les équipes de marque pour l'équipe de France, comme habituellement. Et là, en fait, tous les coureurs sont ensemble dans le bus pour profiter aussi, goûter ces moments rares, parce que effectivement, il y a eu Imola l'an passé, il y a cette année Louvain, mais avant cela, c'était Brochard en 1997. Laurent, et tous les ans c'était pas forcément toujours très rose pour l'équipe de France, donc on sent aussi qu'il y a besoin de goûter ces moments-là.
Oui, c'est vrai, c'est des moments où il faut savoir profiter aussi, parce que tout va très vite, comme a expliqué Thomas. Il y a beaucoup d'obligations pour le champion du monde, mais c'est aussi un peu de frustration pour ses collègues qui ont passé une journée magnifique. C'est un moment quand même que tu retiens très très longtemps, jusqu'au bout de ta vie. Moi j'étais là en 97 quand Brochard a gagné. J'étais favori ce jour-là, c'est Laurent qui a remporté le titre. On n'avait pas de bus à l'époque, mais ce moment-là, il était super parce que voilà, ça
Laurent, je vous arrête un tout petit peu parce que vous entendez très 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 mal. On va en profiter, on est en ligne, le temps que la liaison soit un petit peu plus propre. On est en ligne avec Bernard Hinault qui est lui dans sa voiture et qui rentre justement des terres flamandes où il était invité pour assister au centenaire des championnats du monde. J'imagine que vous êtes un homme heureux, Bernard Hinault, parce que Julien Alaphilippe vous aimait beaucoup, hein.
Oui, effectivement, je l'aime énormément parce qu'il a fait des super numéros et encore aujourd'hui. Donc on ne peut être qu'admiratif par rapport à tout ce qu'il fait.
Qu'est-ce que vous aimez chez lui ? Son panache, son dynamisme ?
Son panache, son envie de gagner, ce que doit être un coureur cycliste normalement, de ce niveau.
Il vous a épaté aujourd'hui ?
Oui, parce que quand il est parti à 17 km de l'arrivée, je ne pensais pas qu'il allait aussi bien finir, parce qu'il avait quand même des concurrents en face de lui qui n'étaient pas non plus des mauvais. Et il a eu cette opportunité, il a attaqué au bon moment. Et puis les autres se sont regardés et ça lui a permis d'aller chercher la victoire.
Amaya,
quand il attaque, vous pensez qu'il allait au bout ou vous pensez vous aussi qu'il prend beaucoup de risques à la dernière, à 17 km de l'arrivée?
Il prend des risques, mais c'était la seule solution qu'il avait pour pouvoir gagner. Parce que s'il attendait plus longtemps, il y avait Cabrelli, il y avait Van Aert, il y avait Van Der Poel, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile pour lui de gagner.
Il entre dans la légende quand même, un premier Français à réussir ce double exploit. Il devient l'un des plus grands en France en cyclisme. Après, il lui manque quelques Tours de France, hein, et on sait à qui il dit.
Il faut pas lui demander de tout faire. Je crois que c'est un coureur pour ce genre de course qu'il sait très bien se préparer. Et donc, des classiques, des championnats du monde, des championnats de France, c'est vraiment son domaine. Des étapes du Tour, mais je ne pense pas qu'il soit capable de gagner le Tour.
Merci beaucoup Bernard Hinault, on vous laisse continuer votre route plutôt, vous rentrez chez vous. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Laurent Jalabert, il avait décidé de faire l'impasse sur les Jeux Olympiques, Julien Alaphilippe. Finalement, c'était un pari gagnant, il a eu raison.
Oui, mais c'était pour d'autres raisons, je pense.
La naissance de
son
Nino,
petit, qu'il a pratiquement pas vu avant de s'élancer sur le Tour. Et c'était la perspective de devoir repartir aussi sec une fois l'arrivée terminée sur les Champs-Élysées, partir au Japon. Je pense que c'est plutôt ça qui l'a rebuté que les Jeux ou de porter le maillot de l'équipe de France. Et ça n'a pas grand-chose à voir avec les championnats du monde. L'un n'empêchait pas l'autre. Hein. Il pouvait très bien être aux Jeux Olympiques une semaine après le Tour et remporter ce titre aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu dommage qu'il ait pas fait les Jeux. Ça, c'est mon point de vue. Mais c'est vrai que si on fait le bilan de ces championnats cette année, bon, il n'y a rien à dire. Il est champion du monde, donc tout va bien.
Il est lourd à porter ce maillot arc-en-ciel. Vous pensez que finalement, ce qu'il dit à la fin de l'interview, c'est assez, assez marquant quand il dit l'année prochaine. Il se projette déjà, lui.
Oui, moi je pense qu'il est lourd à porter ce maillot. C'est une motivation, c'est une fierté. Mais on a senti plusieurs fois dans ses propos ces dernières semaines, il n'était pas mécontent finalement de devoir envisager la saison prochaine avec une tenue normale, celle de son équipe, et ne plus avoir cette responsabilité d'avoir tout le monde sur le dos, d'avoir ce statut de champion du monde qui focalise toutes les attentions, et qui quelquefois certainement rend sa vie un petit peu plus pénible aussi. Bon, il est reparti pour un bail, hein. Il fallait être moins fort aujourd'hui, donc tant pis pour lui finalement, ou tant mieux plutôt.
Ah, Maya, c'est assez paradoxal parce que effectivement on ressent cette pression dans ses paroles avant la course, mais aujourd'hui on a eu l'impression qu'il a couru complètement libéré. Je sais pas ce que vous en pensez.
Ah mais ça c'est sûr, il n'avait rien à perdre. C'était probablement le seul aujourd'hui qui est parti libéré en se disant moi j'ai rien à perdre. Ce bonheur-là de gagner un mondial, je l'ai déjà eu. Je viens juste de lâcher mon maillot, donc je me fais plaisir. On l'a vraiment ressenti effectivement, oui, pendant la course. Et au contraire, ses adversaires, certains, notamment les Belges et Van Aert, étaient très certainement un petit peu tétanisés par la grandeur de l'enjeu. Mmh.
Pour mesurer l'exploit de Julien Alaphilippe, il faut aussi surfer sur les réseaux sociaux, Quentin Vasselin.
Oui, Emmanuel Macron a tweeté par exemple...
Le micro.
Emmanuel Macron a tweeté par exemple « Immense exploit, plein de panache de Julien Alaphilippe qui conserve son titre de champion du monde. Félicitations à lui et à toute l'équipe de France de cyclisme. Sur route, le Premier ministre Jean Castex, le maillot arc-en-ciel, lui va si bien, héroïque Julien Alaphilippe, un immense champion qui a écrit aujourd'hui avec panache l'une des plus belles pages du sport tricolore. Bravo et vive le cyclisme, dit le Premier ministre. » On le savait, amateur de rugby, visiblement il aime bien aussi le vélo. Et un petit tweet de Tony Estanguet, hein, le patron de Paris 2024. « Un titre de champion du monde conservé, une première pour la France. Énorme bravo à lui et à toute l'équipe de France. » Laurent Jalabert, ça donne envie d'être félicité par le président de la République. Ça vous est arrivé pendant votre carrière ?
Oui, ça m'est arrivé. Oui, ça remonte, hein, mais ça m'est arrivé. Oui, ça m'est arrivé, mais pas pour les mêmes raisons. J'ai pas été champion du monde sur route, mais ça m'est arrivé de recevoir les félicitations du chef de l'État. Et évidemment, ça touche.
Faut qu'il aille à l'Elysée maintenant. Ouais. Sans reçu.
Nicolas Georgerot, le programme de Julien Alaphilippe maintenant. Pas de Paris-Roubaix la semaine prochaine. Hein.
Non, mais il va y avoir le Tour de Lombardie aussi très vite. Et ça, c'est un objectif parce que, évidemment, ce titre de champion du monde, c'est une ligne supplémentaire à son palmarès. On sait, c'est son maillot préféré ou l'un de ses préférés avec le maillot jaune. Mais en tout cas, gagner et être champion du monde, c'était son objectif. Il a donc une saison supplémentaire. Et puis, il y a surtout Liège-Bastogne-Liège parce que, pour l'instant, la doyenne des classiques se refuse à lui. Deux fois, il est en mesure de la gagner, mais pour des diverses raisons, il n'a pas réussi. Et donc, évidemment, avec ce maillot arc-en-ciel, s'imposer à Liège serait absolument incroyable et énorme pour lui. C'est ça, c'est voilà des objectifs à venir pour à la fois le court terme avec le Tour de Lombardie et puis dans quelques mois ensuite pour la prochaine saison.
Merci beaucoup Nicolas Georgerot, merci Laurent Jalabert d'avoir été avec nous. Oh, ils sont déjà partis. Bonne soirée à vous en Belgique. Vous écoutez RTL, il est 19h53. Allez, restez avec nous après la pause. Nous revenons sur la 100e victoire de Lewis Hamilton en Formule 1, vainqueur au Grand Prix de Russie.
On refait le sport sur RTL. Avec le Parisien, aujourd'hui en France, Isabelle Langer.
RTL, on refait le sport.
Avec le Parisien, aujourd'hui en France.
Et l'actualité sportive de ce dimanche, c'est aussi la 100e victoire de Lewis Hamilton lors du Grand Prix de Russie de Formule 1. Bonsoir Frédéric Veil.
Bonsoir.
Quel Grand Prix sur le circuit de Sochi. La pluie est arrivée sur les derniers tours et ça a complètement changé la donne.
Oui, 100e victoire obtenue au terme d'une course complètement folle, dominée par Lando Norris, le jeune Britannique, jusqu'à 3 tours de la fin quand la pluie s'est mise à tomber sur les bords de la mer Noire et que le jeune pilote McLaren a pris... Eh bien, la mauvaise décision, celle de rester en piste avec ses pneus slicks. Lewis Hamilton, lui, est rentré au stand. Il était en embuscade. Il en a profité pour en mettre des gommes intermédiaires. Et là, eh bien, il l'a emporté pour devenir le premier pilote de l'histoire de la Formule 1 à décrocher 100 victoires. Sa première, il l'avait obtenue le 10 juin 2007. C'était au Grand Prix du Canada où il avait déjà obtenu ce jour-là sa première pole position de sa carrière. Quelques chiffres, hein. Il y a eu 20 autres victoires avec McLaren, un titre de champion du monde dès sa deuxième saison en F1. Et après, il est allé signer chez Mercedes en 2013. 2013. Et là, bah, c'est 79 victoires, 79 et 21. Vous faites le compte, ça fait 100. C'est 9 de mieux que Michael Schumacher. C'est stratosphérique. Il n'y a pas de mots parce que voilà, ça n'a jamais été fait. Il lui reste que deux records à aller chercher maintenant, Lewis Hamilton. Hein. Celui du plus grand nombre de départs en F1, ça risque d'être compliqué parce qu'il en a 282 derrière Raikkonen qui en a 343. Et puis évidemment, son plus grand titre qu'il veut aller chercher, c'est le 8e titre mondial qui pourrait arriver en fin de saison. Mais en tout cas, on a eu un super grand prix et on a eu Verstappen encore exceptionnel. Il est parti 20e, il termine 2e. Ce gamin-là, vraiment, il nous épatera à toutes les courses.
Alors nous, on se posait une question en studio et c'est Amaya qui va la dire d'ailleurs.
Non, parce que les images à la fin étaient incroyables de ce pauvre Lando Norris en perdition sur sa F1 transformée en savonnette. Racontez-nous pneus. Ouais. C'était incroyable. Ah ben oui. Il n'arrivait plus vraiment à piloter. Sa voiture était hors de contrôle.
Il a tout tenté. Il a tout tenté parce que il a pris. C'est lui, hein, parce qu'on a entendu à la radio son équipe qui lui a dit mais rentre au stand.
Et surtout sa réponse.
On la dira pas parce qu'elle était.
Bon, si on peut le dire. Elle a dit allez vous faire foutre.
Voilà, assez vulgaire tout de même. Mais voilà, il l'a reconnu après dans la zone mixte. Il a dit c'était mon pari de rester en piste. J'ai pris une mauvaise décision. C'est ma décision. C'est ma faute. Il était en pleurs, Lando Norris, quand il a répondu aux journalistes, quand il a répondu à tout le monde. Mais c'est vrai que sa voiture, c'était une savonnette. Ça tient plus avec des pneus sticks sur la pluie. Surtout, vu comment ça tombait, ça pouvait pas tenir.
Oui, il a dit j'ai le cœur brisé, mais c'est lui qui a pris cette décision de pas changer de pneu. Parce qu'il faut savoir qu'il y en a qui sont rentrés au stand. Vous pouvez juste nous expliquer. Quelques tours avant, il y restait 3 tours, mais en fait, c'était impossible de continuer avec ces pneus qui n'étaient pas adaptés à la pluie.
C'est pas possible. Avec un pneu stick, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est pour les routes sèches. Et ensuite, il y a les intermédiaires quand c'est un peu humide. Et ensuite, il faut mettre les pneus pluie. Sans les pneus pluie, on a vu ce que ça donnait avec Lando Norris. On a vu ce que ça a donné avec 2-3 autres pilotes, et notamment Latifi qui a fait une sortie de route également, qui n'avait pas changé ses pneus. C'est impossible de conduire avec des pneus sticks sur une piste mouillée.
Merci beaucoup Frédéric. On se retrouve quand pour le prochain Grand Prix?
Eh bien, dans 15 jours, ce sera à Istanbul, en Turquie.
Merci beaucoup Quentin Vasselin. L'actualité sportive de ce week-end, c'est aussi la Ryder Cup rapidement.
La Ryder Cup, c'est la dernière journée de cette 43e édition. L'Europe est condamnée à l'exploit. Les golfeurs du vieux continent sont menés 11-5 contre les Américains. Il y avait aussi du tennis, tournoi de Metz, la finale. C'est Hubert Hurkacz qui s'impose en Lorraine face à Karine Buska, 7-6, 6-3. C'était le tombeur de Roger Federer à Wimbledon. Et puis, Laurent Tilly a été récompensé par la Confédération Européenne de Volley comme étant le meilleur entraîneur du continent après le titre olympique. Je sais que ça vous fait plaisir, Isabelle Langer.
Je l'ai surtout eu en ligne en début de journée. Il a un petit regret, le champion olympique de volley avec son équipe. Écoutez un petit peu ce qu'il me disait au téléphone. Il lance un appel.
On n'a pas eu de possibilité d'aller à l'Elysée. On a été un peu en dehors de ces fêtes et c'était un peu frustrant.
Est-ce qu'on lancerait pas un appel à Emmanuel Macron pour qu'il réorganise un petit truc pour les volleyeurs français quand même?
Ce serait sympa. Parce que je pense qu'on était tous fiers et c'est vrai qu'à chaque fois on regardait les autres équipes ou les autres médaillés en disant un jour peut-être qu'on ira à l'Elysée si on faisait un bon résultat. On a fait le résultat, on n'a pas pu y aller. Espérons que ça se refasse plus tard.
Voilà, l'appel est lancé à l'Elysée, Amaya Cazenave. Qu'est-ce qu'on pourra lire demain dans les pages du Parisien, j'imagine?
Du long en large à la Philippe. Et puis on aura un peu de PSG aussi, parce qu'il y a quand même quelques matchs importants cette semaine, et notamment face à City. Et je vous le donne en mille, mais les nouvelles sont pas trop mauvaises pour Lionel Messi.
Ah, ça c'est pas mal. Le Parisien que les abonnés numériques peuvent lire dès 23h30. Dans un instant, vous retrouvez les copains de RTL Foot. Mais pour le moment, une petite pause.
On refait le sport sur RTL.